Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre Eldorado. Vous avez l'hôtel qui se compose de 76 bungalows. L'hôtel Aladdin, c'est un Eldorado et qui a une animation qui est basée sur la découverte du pays. Maintenant, on va vous donner une idée sur le programme de l'animation durant la semaine. Et après, on vous donnera une idée sur la Tunisie, ainsi que sur les possibilités des excursions au départ de l'hôtel.
Le premier des droits de l'homme, c'est...
Je vous rappelle aussi qu'il y a un thé qui est servi tous les jours entre 16h15 et 17h15 avec un cake et qui est offert gracieusement.
Le premier des droits de l'homme...
Et puis la mer est belle et tout ça, l'eau est bonne, c'est formidable quoi. C'est une vie de famille quoi. Ici on est bien parce que on est chez soi.
Le premier des droits de l'homme, c'est
qui est attaché par les pieds au plafond, la tête dans un seau avec l'eau.
Le premier des droits de l'homme, c'est
il y a aussi de porter des chaises pour 10 heures à bout de bras. Si on la lâche là, il menaçait de faire enfin soit rôti, soit d'autres types.
Le premier des droits de l'homme, c'est
généralement les interrogatoires, j'ai été tout mis. Parfois, ils m'étaient dans des bureaux, hein, j'écoutais des gens torturés à côté, donc j'écoutais des cris, des bruits, ou bien lorsqu'ils m'amènent dans les salles de torture, j'ai trouvé des traces de sang, de... C'est presque une science de torture tous les 2-3 jours. Tous les gens qui sont passés par là, ils connaissent, enfin, pour Sibir, tout le...
Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation et d'avoir un habitat. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance sur beaucoup, beaucoup de pays. Naturellement, nous avons chacun nos critères d'appréciation et souhaite que le caractère libéral, respectueux des libertés, soit de plus en plus affirmé, ce dont je ne doute pas d'ailleurs, en Tunisie. Enfin, je constate que de ce point de vue, quand même, la Tunisie ne se situe pas dans une situation contestable.
Alors, pour ou contre ce genre de vacances ? À vous de choisir. Chaque année, il y a un peu plus de clients pour les charters, un peu moins de plages désertes, mais toujours la même joie de vivre. C'est au fond l'essentiel, non ?
Voilà, petite carte postale tunisienne pour commencer aujourd'hui, en hommage à notre amie l'avocate Radia Nasraoui, et puis tous ceux qui depuis si longtemps se battent pour les libertés fondamentales en Tunisie. Je pense évidemment à Taoufik Ben Brik, Kassem Ben Sedrine et beaucoup d'autres. Voilà, aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, autour du numéro du mois de décembre du Monde Diplomatique. Auparavant, et pour commencer, comme on voudra, vos messages dans la boîte vocale de la basse UGSFI, 01 56 40 37 37.
Voilà, bon, bah, nous sommes toujours dans la manifestation, là, mais devant le siège social d'Alta 10, les pompiers s'en vont avec un camarade dans un fourgon. Les CRS sont bien frappés, bravo! Merci monsieur Sarkozy, merci monsieur Comoli. On défend nos emplois, on vient là dans notre fête sociale. Notre fête sociale, c'est quoi? C'est nous, nos petites mains, nos petites têtes qui ont travaillé. Et qui... Notre copain, il part dans une ambulance. On est content, enfin, c'est la fête, quoi. Ça m'apparte bien, c'est super. Merci à France Inter de vous être déplacé, d'avoir répondu présent à mes appels, hein. 5-6 appels, bon. 4-5 peut-être, allez, 4-5. 4-5 appels. Hein. Voilà, j'attends encore un peu, mais bon, après, on va plus être là. Hein. Désolé, je pourrais pas écouter l'émission là-bas si j'y suis tout à l'heure, mais je serai dans le bus du retour. Hein. Avec quelques bleus, hein. Puis le moral dans les godasses. Allez, salut.
Bonjour, c'est Philippe, porte-parole de la PES. Un petit message pour annoncer qu'il y a une manif importante contre le chômage et la précarité, contre les licenciements et pour la justice sociale, le samedi 6 décembre à 14h à Denfert-Rochereau. C'est un appel donc à tous celles et ceux qui écoutent là-bas si j'y suis, participez à cette manif organisée par les organisations de chômeurs et Capital pour dire à Raffarin, Sarkozy et au MEDEF que tout n'est pas permis. Venir à cette manif, c'est pas seulement de la solidarité. Participer à la résistance des plus fragiles, des plus pauvres, des plus précaires, de ceux qu'on victimise aujourd'hui, c'est se protéger soi-même demain. Sinon, il pourrait être trop tard. Donc, allez, tous demain à la manif, 14h d'Enfer Rochereau. À demain. Salut.
Salut Daniel, c'est Pascal de la Drôme à l'appareil. Moi, j'aimerais revenir sur l'affaire Executive Life parce que je la trouve parfaitement éclairante sur les mœurs de la France d'en haut. C'est l'histoire d'un homme d'affaires français richissime qui décide de mettre la main, grâce à un montage financier foireux, sur une toute petite compagnie d'assurance américaine, déficitaire, mais qui a un gros portefeuille d'actions. Le montage réussit, il revend des actions, en tire des profits colossaux, et quand les Américains, qui sont un peu moins noix que d'habitude, découvrent le poteau rose et la main dans leur feuille, qu'est-ce qu'ils pensent? Eh ben, ils se retournent vers qui? Vers le gouvernement français pour faire payer l'addition. Et qui c'est qui va payer? Ben, c'est la France d'en bas. Alors moi j'aimerais bien que tu nous fasses un petit topo sur l'affaire, voir un peu quels sont les tenants et les aboutissements réels de cette affaire, parce que je commence à en avoir un peu marre de ne plus pouvoir m'asseoir à force de me faire enfiler moi. Je te remercie, à bientôt Daniel, salut.
Oh ben c'est pas élégant hein, cette image-là, hein. Je vous laisse responsable de vos propos. D'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant, je vous laisse tous responsables de vos propos. Néanmoins, il va en être question justement d'Executive Life et des conséquences dans ce numéro avec le monde diplomatique. Je voudrais revenir sur la manif à 14h à Denfert-Rochereau. C'est pas demain vendredi, c'est samedi. Hein. Notez bien ça. Voilà. Alors d'autres messages, toujours sur le répondeur de la base, c'est au 01 56 40 37 37, suite à l'émission d'hier à Siegfried et Mandoline, qui était l'histoire, enfin la mémoire et le témoignage de cette dame, donc Mandoline, qui, pour des amours coupables avec des soldats, un soldat allemand, pendant la guerre, dont elle lutte un enfant, après s'être mariée, eh bien, vous avez été nombreux à réagir à nouveau, parce que c'était une seconde diffusion, à cet épisode des tondus, ce qu'on a appelé les tondus. Il y aurait en France, ça me semble un chiffre extraordinaire, 200 000 enfants nés de ces relations. Ça semble absolument extraordinaire. En tous les cas, on sent dans vos réactions nombreuses, dans cette un mouvement, dans cette mémoire longue, cette mémoire profonde de notre pays, quelque chose qui ne passe pas.
Je viens d'entendre ton commentaire sur cette mémoire hein, de ces années noires qui est en train de s'estomper. Alors là, c'est le fils de Bosch qui te parle. Oui, peut-être que pour cette génération-là, la mémoire s'estompe du fait que ces gens meurent, disparaissent. Mais nous, les enfants de Bosch, qui sommes toujours en vie et qui sommes dans le monde entier des millions, la mémoire ne s'est pas estompée, au contraire. Plus nous vieillissons et plus cette mémoire est vive, aiguë, et plus nous souffrons justement de ces années noires, il ne faut pas nous oublier. Nous existons, nous vivons, nous défendons la mémoire et de nos pères et de nos mères. Et salut à toute l'équipe. Bon courage. Au revoir. À bientôt.
J'avais 6 ans. J'étais à Bourges et nous sommes allés avec ma mère fêter la libération. Tout à coup, j'ai vu ma mère se mettre à pleurer, prendre la poussette de ma sœur et nous faire demi-tour. Elle n'a pas arrêté de pleurer tout au long du chemin. Je n'osais pas lui demander pourquoi, et arrivée à la maison, elle m'a dit, Tu n'as pas vu ces filles tendues. Heureusement, je n'ai pas voulu que tu les vois. Rien de bon ne peut sortir de tout ça.
Allô, c'est Dominique Desardennes. Ma grand-mère est morte en 1998. Elle avait 82 ans. Née en 1916 à Rimogne, au nord de Charleville-Mézières. Toute son enfance, on l'a appelée la fille de Bosch. Mon arrière-grand-mère avait dû approcher un soldat d'un peu trop près. Je suis donc une arrière-petite fille de Bosch. J'ai découvert cette partie de mes origines après le décès de ma grand-mère il y a 4 ans. Je ne sais pas pourquoi elle m'en a jamais parlé, tant j'étais très proche d'elle. C'est certainement un sentiment de honte et d'humiliation qui l'a rendue muette à ce sujet toute sa vie. Elle m'avait juste raconté qu'en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sa sœur et elle s'étaient vues forcées d'assister à une séance de flagellation de femmes tondues dans une salle municipale de Revin. On leur avait mis des martinets dans les mains. Voilà, c'était Dominique Desardennes.
Ben voilà, Daniel, encore une très très belle histoire aujourd'hui. Comme histoire de ces jeunes prisonniers, comme histoire de ces morts pour son à Madagascar, comme histoire de ce qui nous a fait vivre. Eh bien, une très belle histoire pleine d'émotions où tu nous as tiré encore une fois la larme. Puis quel courage à cette femme de raconter cette période sombre de notre histoire. Voilà. Et encore une fois, mille merci.
Bonsoir, Daniel. Ma mère est morte lorsque j'avais 4 ans. J'en ai 53 aujourd'hui. Et j'ai découvert il y a peu qu'elle a été tendue à la libération. D'où mon émotion à l'écoute de l'émission de ce soir. Je ressens au plus profond de moi l'humiliation et l'injustice qu'elle a subie. Je les porte peut-être encore. Merci et au revoir.
Alors, je viens d'entendre un autre message gratiné. C'est le message masculin pour vanter les mérites de l'Internet. Alors, hier, donc, les femmes, c'était bien parce qu'elles pouvaient trouver des recettes de cuisine. Et puis, les gosses, ils pouvaient faire des exposés. Et puis, alors, les hommes, ils peuvent créer des entreprises et regarder les résultats sportifs. Ah, ben, elle est belle, hein, la société de l'UMP, là. Et puis, moi, je peux dire, en tant qu'enseignante, que ouais, les résultats des élèves, ils s'améliorent hein, quand ils font du copier-coller, qu'ils comprennent même pas ce qu'ils vont chercher sur Internet pour les exposer. C'est super. Allez, au revoir, bonne journée à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Le merdier, voilà, on se défoule dans le Monde Diplomatique de ce mois-ci. Ça commence par le merdier. Jamais j'ai lu un mot pareil dans ce noble journal. Et c'est pourtant le titre de l'édito d'Ignacio Ramonet ce mois-ci, Irak. Le merdier.
Oui, c'est une citation, bien entendu.
Bien sûr.
D'ailleurs, la bienséance nous aurait conduit à ne pas utiliser un terme aussi inélégant. Mais là, on cite, à mon avis, l'un des deux meilleurs livres sur la guerre du Vietnam, hein, qui est le livre de Gustave Ashford, qui a été traduit en français par Le Merdier. Qui traduit bien un petit peu la situation dans laquelle se trouvent désormais les forces d'occupation en Irak. C'est-à-dire, voilà des forces qui sont arrivées et qui s'attendaient à être reçues en libérateurs, on s'en souvient, qui se retrouvent aujourd'hui avec une transformation radicale, finalement, de la situation, dans la mesure où ce que j'essaie de dire, c'est que les attaquants sont maintenant sur la défensive. Et que l'objectif numéro un de ces occupants, aujourd'hui, c'est de se protéger eux-mêmes. Donc, on a vu comment, finalement, en 6 mois, et en particulier au cours de ce mois de novembre, dont certains parlent de novembre noir ou de ramadan noir, ces troupes d'occupation sont devenues un objectif pour les diverses résistances qui se manifestent aujourd'hui et qui, finalement, nous font comprendre que la guerre d'Irak, celle de mars et avril dernier, n'était qu'une étape dans ce qu'est devenu la géopolitique du Proche-Orient, voire même la géopolitique de l'Irak aujourd'hui. Donc, quelle est la situation aujourd'hui en Irak? Voilà une situation où les forces d'occupation sont sur la défensive, où le projet, finalement, à long terme, est déjà très modifié, puisque il est question maintenant de transférer le pouvoir aux Irakiens. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, à quels Irakiens et sous quelle forme va se faire ce transfert. On parle maintenant de le transférer en juin 2004 et de réduire de moitié la présence des forces américaines. Bon, On peut comprendre que le retrait de ces forces américaines soit évidemment une manière de réduire aussi les cibles des diverses résistances. Mais il est clair que un retrait par ailleurs serait une défaite et que la situation d'aujourd'hui, me semble-t-il, est de nature à, au contraire, à fixer les Américains pour très longtemps dans la région. C'est-à-dire qu'on se demande même si la manière dont la guerre a été conduite, c'est-à-dire avec la disparition, l'évaporation des meilleures forces irakiennes, en particulier la célèbre garde républicaine ou la célèbre garde spéciale, quand elles ont disparu, on se demande si c'était pas une façon finalement de maintenir ces troupes dans la nature avec des réserves d'armes pour pouvoir conduire une guerre de guérilla contre les Américains ou contre les occupants. On sait qu'il y a par ailleurs, désormais l'Irak est devenu un objectif pour beaucoup de groupes, disons, qui pratiquent la lutte armée, en particulier liée au réseau Al-Qaïda. Et aujourd'hui, c'est un lieu, je dirais, de concentration, comme le fut contre l'Union soviétique l'Afghanistan pendant les années 80. Et aujourd'hui, de divers horizons, eh bien, des combattants s'acheminent vers l'Irak avec un objectif qui n'est pas celui, on pourrait dire, des résistants baassistes qui existent, c'est-à-dire ce qu'on certains appellent les nostalgiques du régime. Il y a donc d'une part cela, il y a divers groupes liés aux chiites également, et donc il y a une configuration des résistances qu'on ne connaît pas bien, mais il faut dire que par ailleurs, les sondages qui ont été faits récemment à Bagdad par des instituts américains montrent bien que la majorité de la population souhaite tout de même la récupération de la souveraineté irakienne, et donc il y a malgré tout, même s'il n'y a pas de participation bien sûr au fait, même si on peut penser qu'une minorité est d'accord avec ce qui est en train de se passer, une large majorité est en désaccord et ne voit pas ces attentats ou ces attaques contre, en particulier contre les troupes d'occupation. Je crois qu'il faut faire une différence entre les attentats contre les Nations Unies ou les attentats contre la Croix-Rouge, par exemple, qui de toute évidence relèvent de ce qu'il faut bien qualifier de terrorisme, hein, et les attaques contre les forces d'occupation et les militaires, hein, ou les agents de renseignement des forces d'occupation. Et donc, je disais, cette population ne condamne pas ces attaques contre les occupants. C'est pour ça que je me suis permis de citer une phrase de Laurence d'Arabie, qui rappelle, et en particulier, il a combattu dans cette région, qui dit qu'il suffit qu'il y ait 2% d'actifs, à condition qu'il y ait 98% de passifs, pour qu'une rébellion l'emporte. Alors, il faut ajouter à cette situation, disons, militaire, qui s'est énormément compliquée, le fait qu'il n'y a pas non plus de réussite dans ce qu'on pourrait appeler l'administration de l'Irak. C'est quoi aujourd'hui l'administration de l'Irak? Mais globalement, c'est une privatisation intégrale de l'Irak. C'est-à-dire qu'on assiste à l'application, bien entendu, des recettes néolibérales, puisque cette administration américaine étant ce qu'elle est, l'idéologie qui la nourrit étant ce qu'elle est, eh bien, ils appliquent pour une fois en territoire quasiment de laboratoire, puisqu'ils disposent là d'un pays dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent quasiment, eh bien, ils sont en train d'y appliquer une formule de privatisation, en particulier tout ce qui est la sécurité. Je donne dans ce texte, je rappelle dans ce texte qu'il y a des dizaines d'entreprises de sécurité à l'échelle internationale, britanniques, sud-africaines, américaines, australiennes, etc., et qui, aujourd'hui, ont en charge la sécurité. Il n'y a pas que les troupes d'occupation. Il y a pratiquement autant d'hommes aux ordres ou sous les recrutés par ces entreprises de sécurité que des soldats d'occupation. Par exemple, on entend beaucoup parler de la formation de la nouvelle armée irakienne. Il faut savoir que ce ne sont pas les militaires américains ou les militaires britanniques qui sont en train de former cette nouvelle armée irakienne. C'est une entreprise privée de sécurité qui est en train de les former. De la même manière, on entend beaucoup parler de la nouvelle police irakienne. Il faut savoir que ce n'est pas la gendarmerie britannique ou la gendarmerie italienne qui est en train de former la police irakienne. C'est une entreprise privée de sécurité, dont je cite le nom dans ce texte, qui est en train de former les dizaines de milliers de policiers. Il faut savoir aussi, par ailleurs, que en particulier le commandement américain a décidé désormais de créer des milices paramilitaires kurdes dans la zone kurde, des milices paramilitaires chiites en zone chiite, des milices paramilitaires sunnites en zone sunnite. On sait très bien, dans tous les pays où il y a eu des paramilitaires, et notamment sous les conseils des Américains, il faut se souvenir de ce qui s'est passé au Guatemala, 200 000 morts, ou ce qui se passe en Colombie, que lorsque ces forces paramilitaires entreront en action, en particulier pour soutenir la politique des occupants, on va voir, bien sûr, une guerre sale s'installer, c'est-à-dire avec la torture, des disparitions, les intimidations, etc. Et on va atteindre des niveaux dans la répression qui vont être particulièrement scandaleux. Hein ? Ce n'est pas lire dans une boule de cristal que de le deviner, parce que ça s'est toujours passé comme ça. Et donc, c'est aussi, il ne faut pas être, je dirais, devin également, pour imaginer que cette répression conduite de cette manière, en particulier par des forces paramilitaires irakiennes, va conduire à davantage de résistance et va encore donner plus d'arguments à la résistance. Et donc, nous sommes là dans une situation de conflit de très longue durée. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, je ne pense pas que les Américains pourront s'en aller. Hein. Je ne pense pas d'ailleurs que les occupants, quels qu'ils soient, britanniques, italiens, etc., polonais ou autres, puissent s'en aller si vite. On va vers une situation d'une extraordinaire confusion dans la région où l'objectif premier se perd. Il ne faut pas oublier qu'il y avait deux objectifs pour faire cette guerre. Le premier, c'était la destruction des armes de destruction massive qu'il fallait éliminer. On ne les a pas trouvées, elles n'existent pas, on a oublié cet objectif. Deuxièmement, rompre les liens existants entre le régime de Saddam Hussein et le réseau Al-Qaïda. On n'a jamais pu prouver, bien entendu, que ces liens existaient, mais en revanche, on constate maintenant qu'Al-Qaïda est revenu et que l'Irak est devenu un foyer du terrorisme international, qui d'ailleurs, malheureusement, avec les odieux attentats que l'on a vus récemment à Istanbul, les attentats à Riyad, les attentats à Casablanca, donc on voit bien que le niveau, disons, du terrorisme international, d'intensité, n'a pas diminué. Et donc, par conséquent, c'est une politique qui, finalement, comme on avait pu le prévoir, comme nous l'avions prévu, dès avant le conflit de la guerre d'Irak, eh bien, produit toute une série conséquences catastrophiques.
Voilà, alors, comme vous l'aviez prévu, c'était, je ne veux pas vous offenser, mais il fallait pas être grand clair en janvier de cette année pour deviner ou pour prévoir que ça allait devenir effectivement ce merdier. On a quand même des gens aux États-Unis qui ont une certaine compétence. Est-ce que vous pensez que eux n'avaient pas prévu?
Je crois qu'ils se sont auto-intoxiqués. Ils se sont auto-intoxiqués. C'est-à-dire, le groupe de faucons, comme on les appelle, autour de Bush, en sont arrivés eux-mêmes à se persuader qu'ils allaient apporter la liberté et la démocratie en Irak. Et j'en veux pour preuve la décision que prend Rumsfeld.
Si vous avez raison, c'est inquiétant.
Oui, il y a beaucoup de choses inquiétantes. Mais j'en veux pour preuve, si vous voulez, la décision qu'avait prise Rumsfeld et qu'on a déjà commentée ici avec vous au cours de votre émission, au moment de la guerre, et rompant avec une tradition, disons, de 25 ans, en ce qui concerne les relations entre les militaires et les médias, de mettre des journalistes embedded, embarqués dans les forces d'offensive pour que ces journalistes soient témoins de l'accueil triomphal fait aux libérateurs. Ils se sont eux-mêmes persuadés de cette idée-là. Hein. Et je crois par conséquent que ça montre la dimension de l'erreur qu'ils ont commise. Et ça montre aussi la dimension du gâchis dans lequel on se trouve aujourd'hui. N'oubliez pas, par ailleurs, que le premier administrateur nommé, le premier, disons, vice-roi nommé en Irak, n'a tenu que quelques semaines. Au bout de quelques semaines, il a fallu que les Américains eux-mêmes le changent, parce que toute la politique qu'il s'apprêtait à mettre sur pied est devenue obsolète en quelques semaines.
Même qui paye le prix. La guerre éclate car aucune roquette ne fait le tri. Comme l'a fait en temps de pénurie, à l'abri ceux qui font les traits sur les cartes. Ignore soucis ethniques, résume-toi stratégie et technique. playback ou grand discours sur les marches. Pour dénoncer les mauvais tyrans, ériger un modèle d'expression le régime du Shah d'Iran. Disant adieu au dictateur chavirant, le comparant à l'émine à Hitler, aux méthodes brutales de Staline, omettant volontairement se classer et à façonner les associés Noriega, Batista, Pinochet. Il faut croire pour leur secrétaire d'État, c'est plus cool de buter les gens dans les stades. La guerre c'est sale, ouais, y'a plus un seul arpent pour les braves. Est-ce légitime parce qu'on voit celle de Liesse? Mais si c'est ton fils qui perd la vie sous le raz-de-marée des bombes US, qui crée les monstres plus 45, les mêmes connards qui mettent Algérie, Congo, la Côte d'Ivoire en parenthèse, le plus grand braquage de l'histoire. Et ils risquent même pas une heure de geôle, ils mentiront encore dans les livres d'école. La vérité fond comme fond la calotte d'épaule. Dans leur ville, les ghettos tombent sous l'assaut des armes et de l'alcool. Quelle prétention, croire que la démocratie les fait sauter de joie dans la rue. Mais dis-moi, quelle démocratie, celle qui donne ce choix entre la droite et la droite. Les tragédies frappent à l'hôpital, une balle entre le foie et la rate. Un petit gamin J est là dans son char, un J.I. abruti au cul proche de 20 jouis. Faisons comme le monde fait, remercions vivement Bush, Amco, Edson, Powell pour leur montée. Que les temps changent, les choses bougent.
Avec le monde diplomatique jusqu'à 18h sur France Inter.
La peur de vous chez les vieux, quand le mensonge devient si le peu. Les leurs abondés, on s'en carré, la pilule passe mieux. Diffraction massive.
Serge Halimi voulait nous parler de Monsieur Raffarin et de sa politique.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui sont présentées isolément, donc dont on comprend pas forcément la signification, qu'il s'agisse de la privatisation de France Télécom, de ce qui a été annoncé concernant le gel de la rémunération des fonctionnaires, le salaire au mérite, la remise en cause du droit de grève dans la fonction publique et dans les services publics, c'est-à-dire là où les syndicats sont encore suffisamment puissants pour lancer des actions sociales qui peuvent faire reculer le gouvernement, la décentralisation, bon, tout ça va dans le même sens, et parfois, voir le bout de la route permet de comprendre dans quel sens on marche. Parce que tout ça va dans le même sens, qui est le sens qu'on connaît des réformes qui ont été déjà mises en œuvre, entre guillemets, enfin, pour réformes, entre guillemets, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, et dans d'autres pays. Et comme vous savez, souvent on dit que la France est en retard sur l'évolution des autres pays. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les autres pays qui eux sont en avance? Je crois que la logique de ces réformes qui sont celles du gouvernement actuel, la logique c'est de passer effectivement d'un univers assez encore largement structuré par des entreprises publiques et des administrations publiques à un monde qui serait entièrement régi par le marché. Dans les pays, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'éducation supérieure a cessé d'être gratuite. C'est le cas en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi. La santé a cessé d'être gratuite. C'est en cours au Royaume-Uni, ça a été réalisé ailleurs. Les transports et l'énergie ont été privatisés presque partout. Alors, quelle est la progression logique, puisqu'on passe toujours par les mêmes étapes? Première étape, on commence par invoquer que le système centralisé ne marche pas, qu'il est bureaucratique et qu'il génère des gâchis. Vous avez un peu partout au même moment des dossiers sur la crise ou la faillite qui nous menaceraient si on ne faisait pas quelque chose d'urgence. Parce que l'urgence est toujours quelque chose qui permet de progresser plus vite dans la direction qu'on s'est déjà fixée. Deuxième étape, quand la population est suffisamment affolée, et à ce moment en général des sondages viennent en renfort pour expliquer que la population exige des changements, on attaque. On parle de décentraliser le système, de le régionaliser, de le confier aux collectivités locales. Et on dit, après tout, il s'agira d'avoir un système davantage régi par la proximité. Et les gens, en général, sont plutôt favorables à la proximité. On souligne qu'il faut abandonner aux régions le droit de gérer leur budget, comme elles l'entendent. Et on invoque la responsabilité. Qui est contre la proximité? Qui est contre la responsabilité? Personne, alors on continue. Étape supplémentaire, on crée un marché de l'éducation et de la santé. Parce qu'en créant un marché, on va pouvoir fixer des prix. Et une fois qu'on aura fixé des prix, on expliquera que ces prix vont nous permettre d'orienter et de contrôler la gestion, et donc d'éviter les gâchis. Le cas échéant, ça permettra de fermer des hôpitaux, des écoles ou des bureaux de poste, dont on va naturellement découvrir qu'ils ne sont pas rentables, grâce au système de prix qu'on a mis en place. Étape suivante, l'État central a délégué les services et les administrations publiques, mais il n'a pas délégué les moyens de les opérer. Il y a de moins en moins de moyens. Donc les autorités publiques vont devoir se débrouiller. Après tout, on leur a confié la responsabilité de se débrouiller. Donc les autorités publiques locales se débrouillent. Elles nouent des partenariats avec les entreprises. Elles le peuvent, elles ont la liberté de le faire. Elles reviennent sur la gratuité des soins et des études, par souci de responsabiliser les usagers, qui entre-temps sont devenus des clients, et de remédier au soi-disant gâchis qu'on a évoqué. Et on délègue au secteur privé une part croissante des tâches d'éducation ou de santé. En règle générale, ça commence par sous-traiter le gardiennage, le nettoyage, la restauration. Et puis, on ne cesse, et ça c'est très important, d'évaluer, de restructurer les administrations ou les services publics. Et à chaque fois qu'on évalue, on s'aperçoit qu'il y a une fraction du service rendu qui n'est pas efficiente. Donc on s'en débarrasse. Et il faut dire que ces dernières années, les professions un peu parasites du conseil, de la communication et de l'expertise ont beaucoup enflé dans les pays occidentaux. Elles sont toujours chargées d'évaluer. Et puis une fois qu'on a comparé et qu'on a mis en concurrence, il faut qu'il y ait des communicants qui vantent les mérites d'un service à un tel endroit plutôt qu'un autre service à un tel endroit. À l'issue de ces évaluations, on se débarrasse des activités autrefois organisées par l'État et on les confie au privé. On explique que ce sera moins cher, plus souple, plus proche des gens. Les entreprises sous-traitantes auxquelles on fait appel sont d'ailleurs, effectivement, d'autant plus compétitives que leur personnel ne bénéficie pas du statut de fonctionnaire. Ils sont moins payés et ils sont plus précaires. Étape suivante, la privatisation est rampante, la précarité aussi.
Là, ce que vous nous racontez, c'est libéralisation, mode d'emploi.
Exactement.
Ça pourrait être dans un petit livre pas si épais, après tout, oui, qui pourrait être à l'usage de tous et qui est à l'usage de tous. Enfin, c'est une feuille de route qui est observée soigneusement, régulièrement. C'est pas si compliqué. Ils ont pas trop de mérite, nos amis, hein, et depuis pas mal d'années.
Ils n'ont aucun mérite parce que ce sont des réformes qui ont déjà été mises en œuvre, comme je le disais tout à l'heure, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et qui ont été théorisées. Et on sait bien que si vous présentez l'ensemble du paquet tout de suite, les gens vont se rebiffer. Si on vous dit tout de suite, on passe d'un système avec des services publics gratuits à un système privé régi par la loi du client et par des prix qu'on doit payer pour l'université et pour la santé, les gens sont contre, donc vous ne leur dites pas. Vous leur dites, oui, mais le système gratuit, c'est très bien, bien sûr, on est pour, mais il est lourd, il est bureaucratique, on va le décentraliser. Et puis, étape par étape, vous arrivez au bout de la route. Alors, comme eux savent très bien où ils veulent aller, il vaudrait mieux que nous, étape par étape, on sache exactement à quoi mène la suivante, parce qu'eux le savent déjà.
Donc, si on veut connaître notre avenir avant, on allait en Union soviétique, et le paradis des prolétaires, ou aux États-Unis, qui étaient parfois même en Suède, hein, au Japon, maintenant c'est la Nouvelle-Zélande, alors.
Bah, ça a été la Nouvelle-Zélande, c'est aussi le Royaume-Uni, d'autant plus que ce sont des pays qui sont membres de l'OCDE, qui est une espèce de think tank pour tous les pays occidentaux, qui a déjà élaboré les systèmes les plus performants, et qui a déjà fait savoir quels étaient les pays qui correspondaient le plus à ces aspirations. Et donc, comme l'OCDE pond des rapports en permanence qui sont distribués à tous les gouvernements, qui sont d'ailleurs entérinés par tous les gouvernements membres de l'association, on sait très précisément quelles sont les réformes qu'il faut faire et quels sont les retards auxquels il faut remédier. Donc tout ça est assez connu. Encore une fois, la privatisation va avancer, mais par appartement, appartement par appartement, étape par étape, la précarité aussi, à l'intérieur même des administrations publiques, qui vont être vendues par tranche, souvent au rythme des embarras financiers de ces services qu'on a délégués aux autorités locales, et qui doivent donc se débrouiller avec ce qu'elles ont. Donc vous avez proximité, responsabilité, partenariat. À chaque fois qu'on entend ces mots-là, il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut savoir où ça mène. La réforme procède toujours dans la même direction. Vous savez, au lendemain de la guerre, il y a Hayek qui a écrit un livre où il évoquait la spirale collectiviste. Et ben là, maintenant, c'est l'inverse. C'est pas du tout la spirale collectiviste qu'il redoutait, puisque ses idées ont triomphé, c'est la spirale du marché. En d'autres termes, il y a bien eu une chute des dominos, mais la chute des dominos a changé de sens. Donc la règle fondamentale dans tout ça, c'est on sait où on va, mais on ne le dit pas. Les gens ne le découvriront qu'étape après étape. Vous voyez, vous ouvrez la porte et puis vous fermez la porte derrière, donc vous devez avancer. Vous devez toujours avancer. Et surtout, on ne doit jamais s'arrêter en cours de route.
C'est l'effet cliquet.
C'est l'effet cliquet. On ne doit jamais s'arrêter en cours de route. D'ailleurs, expliquait un chef du patronat néo-zélandais, parce que c'est une métaphore qu'on entend souvent, nous devons franchir la rivière, nous sommes à présent au milieu du gué, et nous allons nous noyer si nous ne faisons rien. Et quand une crise intervient, parce qu'une crise intervient parfois dans ces systèmes où tout se passe bien, il peut y avoir un krach financier par exemple. Et ben quand une crise intervient, comment on réagit? Et ben on explique que c'est la preuve, je cite un ministre des Finances socialiste néo-zélandais, puisque ce sont les socialistes qui ont procédé à ces réformes, les travaillistes, nous devons accélérer le processus de réforme au lieu de l'interrompre. Explication, raisonnement, les marchés sont inquiets parce que la réforme est encore incomplète. Il faut donc les rassurer en forçant l'allure et en allant jusqu'au bout. Une fois qu'on aura levé en quelque sorte toutes les inquiétudes...
Mais ça, on entendait ça en Union soviétique.
Absolument.
C'est exactement ce qu'on entendait. On disait, mais attendez, vous avez des goulags, vous avez ci, vous avez des tas de trucs qui quand même posent problème, non? Non, oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez.
Exactement, c'est parce que le socialisme n'a pas encore triomphé, qu'il y a la lutte des classes qui se poursuit et qu'on est obligé de réprimer les adversaires. Ben là, le système ne fonctionne pas encore bien parce qu'il n'a pas été au bout de sa logique et qu'il doit s'opposer à un certain nombre de résistances qui l'empêchent d'opérer de manière fluide. Et alors, il faut quand même souligner que les médias jouent un rôle clé dans cette affaire parce que leur travail, c'est d'accompagner chacune des étapes et de préparer la suivante. C'est ce qu'on appelle leur pédagogie. Leur pédagogie qu'on entend sur la plupart des radios, y compris d'ailleurs sur France Inter, c'est d'accompagner ces étapes-là, de nous expliquer l'horreur du statu quo, qui est archaïque et qui est intenable, et puis les promesses des réformes, qui sont modernes puisque ce sont des réformes capitalistes. Les sondages sont aussi là pour donner le label de populaire aux réformes qui sont préparées par le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les trois derniers événements auxquels on peut penser, qu'il s'agisse de la réduction des retraites, de la baisse de l'indemnisation des chômeurs, ou en ce moment de la mise en cause du droit de grève dans le secteur public, on nous explique, sondage à l'appui, que les Français y sont favorables. Que les Français sont favorables à ces réformes. Évidemment, les questions qui sont posées de telle manière qu'on ne leur propose jamais d'autre choix que des réformes libérales.
On comprend mieux avec le monde diplomatique dans la basse Gisbis, c'est jusqu'à 18h sur France Inter. Papier ce mois-ci dans le monde diplomatique, ce numéro de décembre, sur évidemment Genève, sur cette promesse de paix. Le monde diplomatique soutient ouvertement cette initiative.
Alors vous dites on est pour, oui on est pour une raison extrêmement simple.
C'est Dominique Vidal.
Il faut savoir se fixer des priorités. Ce qui est important aujourd'hui, pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, je dirais d'abord pour les Palestiniens, vous allez voir les chiffres, c'est de sortir du cauchemar dans lequel ils sont plongés depuis 3 ans. On estime à 850 le nombre d'Israéliens tués depuis 3 ans et à 2800 le nombre de Palestiniens. Ces chiffres, comme ça, ils ont l'air un peu abstraits. Rapportons ces chiffres aux différences de population entre Israël et la France et entre la Palestine, je veux dire les territoires occupés, et la France. Eh bien, c'est comme si, du côté israélien, on avait perdu 8500 personnes et du côté palestinien, plus de 50 000. C'est une horreur absolue.
À quoi il faut ajouter des blessés?
Absolument. C'est vraiment un désastre. Donc, tout ce qui peut permettre d'en sortir, en tout cas de casser ce cercle vicieux et d'essayer de revenir sur le terrain de la négociation diplomatique, est bon. Et je dois dire que le pari qu'ont fait Yossi Bailin, l'ex-ministre de la Justice israélien, et Yasser Abed Rabo, qui est l'ex-ministre de l'information palestinien, il est d'ores et déjà gagné, au moins sur un point. Ils ont fait tout bouger au Proche-Orient. Les opinions israéliennes et palestiniennes sont visiblement en train d'être convaincues de la valeur du projet. Selon un institut américain, l'Institut Baker, de sondage, il y a 53-54% respectivement en faveur de Genève. Mais même si on ne parle pas de sondage, je crois qu'il faut dire qu'on sent, jusque dans les prises de position, par exemple, de généraux israéliens, de quatre anciens chefs des services secrets du Shin Bet, au fond, dans les tréfonds de cette société, y compris dans son cœur sioniste, pour parler clair, on sent la volonté d'en sortir. Mais c'est pas seulement ça qu'on voit. On voit Ariel Sharon, pour la première fois de son histoire, je dirais, depuis les massacres de Sabra et Shatila, dans une situation intenable. Il est en faillite, et du coup, il est obligé de faire des gestes, ou d'en annoncer, ou de faire semblant d'en annoncer. Il a, par exemple, promis des gestes unilatéraux sur la question des colonies ou du mur. Il a accepté, ce qu'il refusait, un entretien, une rencontre, avec Ahmad Korey, son homologue palestinien. Et le voilà, en plus, qui se trouve aujourd'hui fâché avec la direction américaine. D'abord, George Bush, lorsqu'à Londres, il s'en est pris pour la xième fois à Yasser Arafat, il s'en est pris aussi pour la première fois aux Israéliens, en disant, mais le mur, ça va pas, les colonies, ça va pas, l'humiliation permanente des Palestiniens, ça va pas. Cette manière de dire le mécontentement américain s'est traduite par le retrait de 300 millions de dollars dans l'aide des États-Unis à Israël cette année. C'est pas rien. C'est le montant investi dans le mur et dans les colonies. Et puis voilà que depuis deux jours, il y a une polémique ouverte entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Sylvain Shalom, et le secrétaire d'État américain, Colin Powell, parce que ce dernier a invité à Washington Yossi Begin et Yasser Abed-Rabo. Et comme Sylvain Shalom...
C'est-à-dire les deux négociateurs, qui sont les deux personnages symboles de ces accords de Genève.
Alors voyez, tout ça est en train de bouger, et je crois que c'est extrêmement important. Donc on a, je ne dis pas une situation où ça y est, Genève va s'appliquer après-demain, bien sûr que non, mais on a une situation en mouvement qui peut permettre d'avancer, et je crois que c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire sur le principe de la souveraineté, l'État palestinien souverain, il est en toutes lettres dans Genève. Sur le retrait des Israéliens des territoires occupés, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, de Jérusalem-Est, on a là clairement, non pas à 100% raison, mais à 97,5%, beaucoup plus qu'à Camp David, la fameuse offre qui n'était pas si généreuse que ça de Monsieur Barak, bien plus qu'à Taba. Au fond, les Palestiniens récupéreront 100% de la bande de Gaza, 97,5% de la Cisjordanie, et sur les 2,5% qui restent, ils auront des territoires équivalents en superficie qui leur seront donnés par l'État d'Israël. Donc on a là réellement, sur cette question du retrait des territoires, une grande avancée. Jérusalem, c'est clair, pour la première fois, ça n'avait jamais été affirmé aussi clairement, les Israéliens acceptent le partage de la souveraineté à Jérusalem. Jérusalem sera partagée, je ne parle pas, le territoire sera pas divisé, mais la souveraineté sera partagée entre Israéliens et Palestiniens sur la base des propositions qui avaient été faites à Taba. Et même la vieille ville, vous vous souvenez de cette grande polémique autour du mont du Temple que les dirigeants israéliens réclamaient à force grand cri, je dirais, eh bien le mont du Temple, il deviendra palestinien, c'est-à-dire que l'esplanade des mosquées, comme l'ensemble des quartiers, sauf le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, seront sous souveraineté palestinienne. Sous souveraineté israélienne, on trouvera le mur des Lamentations et le quartier juif. Alors on en vient au dernier principe important, celui du droit au retour des réfugiés dans leur foyer. Cette résolution 194, elle figure, comme toutes les autres résolutions de l'ONU, dans le préambule du pacte de Genève comme base de ce pacte. Deuxièmement, le principe d'une indemnisation est fixé pour tous les réfugiés, quelle que soit leur décision. Ce qui est une manière de manifester, symboliquement mais aussi matériellement, le fait que l'État d'Israël reconnaît sa part de responsabilité dans l'exode de 1948 et aussi d'ailleurs celui de 1967.
Il y avait un peuple sur cette terre sans peuple.
Il y avait, et voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que propose Genève? Il propose aux réfugiés trois solutions. Première solution, rester là où ils veulent, là où ils vivent aujourd'hui, Et on sait d'ailleurs que c'est le choix de l'immense majorité des réfugiés palestiniens, à l'exception notable de celle des réfugiés du Liban. Parce qu'au Liban, les conditions dans lesquelles vivent les Palestiniens sont des conditions qui les poussent au départ aussi rapidement que possible. Deuxième solution, rentrer, exercer leur droit au retour en Palestine dans l'État de Palestine. Et c'est là aussi le choix que font l'immense majorité de ceux qui veulent rentrer. On le sait à travers les enquêtes de l'UNRWA et toute une série d'études sociologiques des dernières années, ça n'est pas un fait nouveau. Et troisièmement, il y a la possibilité, pour un certain nombre d'entre eux, quelques dizaines de milliers, de rentrer en Israël même, là où se trouvait leur maison, là dont ils ont été expulsés, là où on leur a volé leurs biens, leurs terres. Mais c'est vrai, et c'est un compromis qu'ont fait les Palestiniens, il faut le reconnaître, ce retour en Israël sera soumis à la souveraineté d'Israël, c'est-à-dire que les dirigeants israéliens auront à accepter ou non.
Ou non, parce que les quelques dizaines de milliers, il y a pas mal de chances que ce soit non.
Moi, je n'en suis pas aussi sûr que vous. Je ne sais pas, on verra. On verra d'abord si Genève s'applique, et puis on verra ensuite sur ce point. Donc je pense qu'il y a là une ouverture extrêmement importante qu'il serait tout à fait dommageable de ne pas prendre en compte.
Voilà, avec le diplôme de ce mois de décembre, on va évoquer un papier absolument formidable dans le monde diplomatique au sujet du chef-d'œuvre que vous avez tous lu ou que vous allez lire très très bientôt, le livre de Bernard-Henri Lévy sur le journaliste américain Daniel Pearl. Alors, un grand papier dans le monde diplomatique de ce mois de décembre, au sujet de l'affaire Pearl, de la mort et l'assassinat de Daniel Pearl au Pakistan. On connaît cette histoire et on sait qu'il y a deux livres qui ont été publiés sur ce sujet, celui de Bernard-Henri Lévy, avec un succès et un tapage médiatique extraordinaire, et puis celui de Marianne Pearl, que les auditeurs de la Basse Suisse connaissent, dont elles se souviennent peut-être, parce qu'elle a travaillé à un moment avec nous, et c'est une amie depuis longtemps de notre fine équipe. Et là, il y a un papier de William Dalrymple qui fait un travail vraiment de démontage de ces deux ouvrages.
Oui, alors il faut préciser que cet article est un article qui a été traduit
Serge Halimi.
La New York Review of Books, qui est ce qu'on dit souvent, la prestigieuse revue américaine. Mais il se trouve que dans le cas d'espèce, cet article, qui est quand même un article important, n'a pas obtenu beaucoup d'écho en France, puisqu'il détruit littéralement le roman-enquête de Bernard-Henri Lévy, dont on a été quand même assez largement bassiné au moment de sa sortie, au printemps dernier. Alors là, vous avez un journaliste qui est spécialiste du sous-continent indien, qui prend le temps de lire un livre qui traite d'une affaire s'étant déroulée au Pakistan,
et
qui
il travaille depuis 17 ans.
Oui, depuis 17 ans, et qui quelques mois plus tard rend son verdict. Ce qui est tout de même une démarche inhabituelle quand vous considérez la manière dont les critiques de livres opèrent en France, surtout quand il s'agit des livres des personnalités ayant pignon sur rue comme BHL. Il suffit que le livre sorte pour qu'on vous dise tout de suite qu'il est formidable. Le livre peut faire 500 pages, 1000 pages, 1200 pages. Dans les heures qui suivent, vous avez le verdict, ce bouquin est formidable, c'est le livre à lire. Donc William Dalrymple, lui, a pris un peu de temps pour lire ce livre sur un sujet qu'on connaît, et dans sa très longue analyse, j'extrais, si vous voulez, uniquement le verdict, mais il faut voir que ce verdict s'appuie sur un certain nombre de faits qu'il évoque et qui sont erronés dans le roman-enquête de Bernard-Henri Lévy, parce qu'il a appelé son livre un roman-enquête. Ce qui lui permet, quand on met en cause les défauts de son enquête, de dire c'est un roman, et quand on met en cause les défauts du roman, de dire c'est une enquête. Et Dalrymple, qui a lu donc ce livre, explique, je cite, que c'est un texte qui pâtit de défauts rédhibitoires, et qui fourmille d'erreurs factuelles de première importance, qui est dépourvu de toute fiabilité quant au respect des faits, qui relève de la pure invention, car pour l'auteur, dès lors qu'aucune preuve n'est disponible, il fait comme si elle existait. Il explique plus loin, exemples à l'appui encore, que BHL a visé beaucoup trop haut eu égard à ses compétences, qu'il a étalé son ignorance crasse de la vie politique en Asie du Sud-Est, élaboré une série de théories du complot, mais sans l'ombre d'une démonstration, que pour lui, Je cite « La répétition des ragots et des rumeurs les transforme en réalité. Conclusion, un livre de haine, le comble du ridicule. » Alors,
sévère.
C'est assez sévère. Encore une fois, là, ce sont uniquement les phrases de conclusion que j'extrais et qui émaillent le texte et qui sont basées sur un certain nombre d'exemples précis, de villes qui sont mal situées, de faits historiques qui ne se sont pas du tout passés comme Bernard-Henri Lévy les indique. Et alors, ce qui est important plus fondamentalement pour nous, c'est de se poser des questions sur la manière dont notre vie publique, dont notre vie intellectuelle est polluée par de faux événements ou des ouvrages bâclés qu'on nous impose comme vraiment quelque chose de très important auquel on doit réfléchir. Il faut rappeler que quand le livre de Bernard-Henri Lévy est sorti, il est passé partout, mais de manière, c'était un matraquage tel qu'on en avait vu peu précédemment, pour nous expliquer, comme si ça avait été un grand expert du sous-continent indien, qu'il était à peu près certain que le Pakistan avait livré les secrets de la bombe atomique à Al-Qaïda, et vous avez autour de lui des journalistes qui disaient « Ah bon, vous pensez? Alors c'est inquiétant, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» qui s'adressaient à lui, en quelque sorte, comme si c'était vraiment un conseiller du ministère des Affaires étrangères. En plus, quand ces faux événements nous occupent, et quand il y a ce matraquage, il y a évidemment d'autres événements dont on devrait parler, ou d'autres ouvrages dont on devrait parler, pour lesquels il y a très peu de place, puisque tout est occupé par Bernard-Henri Lévy. Alors, dans le monde diplomatique, on évoque aussi, on revient sur les conditions de réception du livre en France, et les critiques absolument dithyrambiques dont il a été gratifié, le matraquage qu'il a accompagné, et on voit quand même le contraste entre un travail sérieux écrit par un spécialiste, et puis les compliments d'usage qui sont en général délivrés par des grands éditorialistes ou des directeurs de journaux qui ne connaissent pas davantage le Pakistan qu'ils connaissaient l'Algérie quand ils célébraient l'enquête de Bernard-Henri Lévy sur l'Algérie, ou l'Afghanistan quand ils célébraient l'enquête de Bernard-Henri Lévy sur l'Afghanistan, parce qu'il y a quand même cette caractéristique de notre vie intellectuelle qui est intéressante, c'est que pour critiquer un livre de Bernard-Henri Lévy qu'il traite de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Soudan, du Sri Lanka ou du Pakistan, vous n'avez pas du tout besoin d'être spécialiste de ces pays, vous pouvez même ne jamais y avoir mis les pieds. Ce qu'on vous demande, c'est de dire de confiance que l'œuvre est mirobolante et qu'il faut se précipiter pour l'acheter.
Voilà, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Serge Halimi, Dominique Vidal. Demain, on retrouvera Martine Bullard de l'équipe du Diplo, aussi en début d'heure, sur la politique sociale de notre gouvernement. Elle a des analyses assez percutantes. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est Christophe Humbert qui s'en occupe évidemment, c'est Koyen Guyenne qui choisit les musiques, et c'est Antoine qui a fait tout le boulot. Antoine Chao a fait tout le boulot. Réclame.